Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale, hein? Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Ah. Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Poète, chanter, il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki,
certain que c'est une, dans un sens une crise politique qui va beaucoup plus étendue que l'Union européenne. C'est une crise politique.
Mais qui frappe votre parti ou qui frappe le pays?
Ça frappe le pays.
Expliquez-nous.
Eh bien, d'abord, il faut constater que pour le Parti travailliste, ils ont découvert très rapidement que bien que les parlementaires sont très unis au sujet de rester dans l'Union européenne, leur électorat traditionnel, est très divisé, et particulièrement l'électorat traditionnel blanc, anglo-saxon, dans leur circonscription du industriel du nord de l'Angleterre, a monté tendance d'aller vers UKIP, et montre particulièrement au sujet de l'immigration une forte hostilité à leurs députés, qui ont un point de vue différent. Donc ça se manifeste immédiatement. Et dans mon parti, nous avons dans un sens le même problème. Ah, ça peut se voir dans ma circonscription. Ah, j'ai beaucoup de personnes qui travaillent à Londres, beaucoup dans le secteur financier ou dans le secteur du commerce. Et manifestement, ils veulent rester dans l'Union européenne. Mais il y en a d'autres qui sont à petits commerçants, à self-employed, ils travaillent pour leur propre compte, ils ont une opinion de grande hostilité qui se concentre sur l'immigration, mais aussi un sens de détachement du monde politique et une grande inquiétude du futur pour leur pays, pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Et donc c'était déjà apparent quand nous avons eu le référendum en Écosse, qui en un sens c'est le revers de la même médaille.
Mais aujourd'hui, vous parlez à des gens en off qui travaillent à la City, qui travaillent dans des banques, et ils vous disent Brexit. Et aussi, vous avez des immigrés qui vous disent, nous, on est arrivés à 15 ans. Eh bien, on est pour le Brexit parce que on ne veut pas d'autres immigrés qui viennent. Donc, il y a un problème économique. C'est pas un problème de racisme. Ils vous le disent. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes venus il y a 15 ans. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Comme vous l'avez dit, ils pensent à leurs enfants, leurs petits-enfants.
Throw it away.
Mais le débat économique a assez rapidement, à mon opinion, été gagné par les Remainers. Et à ce moment-là, je crois qu'il était inévitable que la question de l'immigration se pose. Je crois qu'il est difficile, peut-être en France, de comprendre la nature du problème. Ce n'est pas simplement une question culturelle, parce qu'effectivement, les immigrés qui viennent de l'Europe s'intègrent très, très facilement. Ils font du bon travail, il y en a 50 000 dans notre service de santé, le NHS, il y a 60 000 qui travaillent dans des maisons de retraite. On peut pas aller dans un café, et même en dehors de Londres, en province, sans rencontrer quelqu'un qui vient de Lituanie, de Pologne, de Roumanie. Ils travaillent bien, ils aiment bien être en Angleterre, et d'un grand point de vue, on les remarque pas. Ce n'est pas ça le problème. Le problème particulier, c'est qu'avec plus de 300 000, une augmentation de population de 300 000 personnes par an, il y a des pressions sur l'infrastructure, il y a de grandes inquiétudes du futur. Les Anglais, les Britanniques aiment beaucoup leur pays, ils aiment le milieu physique où ils habitent. Dans ma circonscription, chaque champ est contesté si on parle d'y bâtir. Et donc, le changement est tellement rapide qu'ils s'inquiètent. Et puis en plus, ils regardent leur télévision, ce qu'ils voient, ce ne sont pas des immigrés venant de la Roumanie, de la Pologne, de la France ou de l'Espagne, ils voient des désespérés arrivant de la Syrie, de l'Irak ou du Sahel, et ils se disent que c'est un monde qui est en révolution. Nous sommes dans un milieu très instable et qu'il faut donc lever le pont-levis. Ce n'est pas dans un sens du racisme, c'est une constatation que le monde est troublé et que le gouvernement ne se penche, et les politiques généralement ne se penchent pas sur ce problème pour eux. Maintenant, je crois qu'ils visent la mauvaise cible, parce que si nous quittons l'Union européenne, on aura, à mon avis, des gros problèmes économiques. Et ces autres problèmes ne vont pas disparaître et ne seront pas résolus.
Sometimes I phone you and I know you're not lonely, but I always disconnected in time. There's no actions, there's no actions, there's no actions. Every time I phone you, I just wanna put you. Every time I phone you, I just wanna put you. Every time I phone you, I just wanna put you down. There's no action.
sur les murs, des écrans avec les matchs de football, les courses hippiques, les matchs de tennis féminin et la possibilité à tout instant de parier sur n'importe quel événement. Une sortie de l'Union européenne est peu probable, mais Stuart veut tout de même tenter sa chance.
5 livres ? Bah, si je perds un billet de 5, c'est pas grave. J'espère qu'on va sortir de l'Union, mais je pense que l'immense majorité des Britanniques va vouloir rester. J'ai voté pour qu'on sorte, pour restaurer notre législation en Angleterre, qu'on puisse gérer notre pays plutôt que d'être gouverné par les lois européennes comme aujourd'hui. On aura plus le contrôle de notre propre pays.
Et ce scénario de sortie de l'UE est, selon les bookmakers, assez peu probable, Antoine.
Oui, les cotes sont affichées au mur, 6-1 pour le Brexit. Alors même si les sondages de ces derniers jours donnent les deux camps à égalité, Gareth, le manager, ne croit pas du tout à une sortie de l'Union européenne.
Tu mets 10 livres sur le Brexit, tu en récupères 70. Donc ça veut dire qu'il y a 11 ou 12% de chances que ça arrive.
Soyons francs. Pour certains, l'Union européenne est une bonne chose. Si vous êtes une grande multinationale, c'est une institution fantastique. Mais l'Europe, c'est aussi pouvoir importer de la main-d'œuvre étrangère low cost, au détriment des travailleurs gallois, irlandais du Nord, anglais et écossais. Nous pouvons gagner ce référendum, nous pouvons battre l'establishment. Merci.
Le camp du non à l'Europe joue la carte du peuple. Mais à l'extérieur, des opposants de Nigel Farage lui prêtent d'autres motivations.
Il essaie de se dépeindre comme quelqu'un du peuple, mais il n'est pas du peuple. Il est ici seulement pour son propre intérêt et ceux de l'élite du parti UKIP. Leur intérêt, c'est se faire de l'argent en sortant le Royaume-Uni de l'Europe.
Si ces gens veulent me soutenir avec de l'argent, tant mieux. Mais croyez-moi, je ne suis pas à vendre.
Aaron Banks, assureur, mais aussi James Mellon, patron d'un fonds spéculatif. Ou encore Paul Sykes, l'une des plus grosses fortunes d'Angleterre et principal donateur du parti UKIP. Ils sont les nouveaux visages de l'europhobie. Marc Roche, journaliste financier basé à Londres, les connaît bien.
Ce sont des self-made men, britanniques qui ont créé leur propre structure et qui estiment que l'Union européenne est un obstacle à leurs ambitions, particulièrement à l'utilisation des paradis fiscaux. Certains hedge funds et certaines compagnies d'assurance et certains agents financiers ont une vision planétaire des choses. Leur univers mental n'est pas cantonné à l'Europe, c'est le monde. Donc en sortant de l'Union européenne, ils espèrent retrouver leur liberté d'action pour mener leur spéculation à l'abri des regards.
On s'est tous endormis avec la conviction que le in allait l'emporter, et on s'est réveillé très tôt ce matin d'ailleurs avec un Brexit à commenter, mais l'essentiel n'est pas là, l'essentiel c'est de comprendre ce qui s'est passé. Et l'on a commencé à comprendre lorsque même Londres, vous savez, la si riche et si cosmopolite Londres, a renvoyé un vote out beaucoup plus important que prévu. Alors c'est vrai qu'on ne répond jamais vraiment à la question que posent les référendums, et celui-là ne fait pas exception. Les Britanniques ont des cris si raisonnables, si pragmatiques, auraient dû, selon des commentateurs si raisonnables, si pragmatiques, se ranger derrière l'évidence, le bien du Royaume-Uni, selon eux, c'était d'en être. Après tout, tout va si bien dans le Royaume-Uni de sa très gracieuse majesté Elisabeth II. Le taux de chômage est si bas, l'économie est si flamboyante, le taux de croissance si élevé. Et en plus, on vient de fêter les 90 ans de la reine, que demande le peuple ?
Et oui, alors, que demande-t-il ?
Eh bien, le peuple, il veut qu'on le protège. Il ne veut plus faire la queue chez le docteur à l'hôpital ou à l'école publique. Il veut un système de sécurité sociale qui fonctionne et qui ne soit pas constamment sous la pression des coupes budgétaires. Il veut travailler décemment sans être constamment sous la pression d'un renvoi facilité. Il veut être logé sans avoir à débourser des sommes folles en loyer ou sans devoir quitter son quartier sous la pression de la spéculation immobilière, comme c'est le cas à Londres. Il veut que la fameuse croissance britannique lui profite. C'est donc bien, comme l'indique le Sun, une révolte par les urnes à laquelle on assiste, une révolte de la classe ouvrière. Laissez-moi vous donner un exemple qui m'a frappé récemment. Lors de la campagne municipale à Londres, il y a quelques mois, l'objectif des deux principaux candidats était de construire 50 000 logements sociaux par an, c'est-à-dire de doubler le rythme annuel de construction. À Londres, on construit donc 25 000 logements sociaux par an pour 8,5 millions d'habitants. C'est deux fois moins que ce que construit la région parisienne, Paris compris, dans les mauvaises années. À Londres, certains en sont à faire de la colocation de chambres, tant les loyers sont élevés.
On vous sent un peu en colère.
Oui, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que si les politiques ne sont pas contents avec ce résultat, ben, il fallait pas poser la question. La seconde, c'est qu'ils n'ont rien vu venir. Asphyxiés par des chiffres mirobolants qui ravissent les forums économiques, ils n'ont pas vu la souffrance des ouvriers et des employés britanniques. La dernière raison de ma colère, on va dire ça comme ça, c'est qu'en France non plus, on ne voit rien venir. Tout, dans toute l'Europe, ce vent de contestation prend des proportions dantesques. En Espagne, dans quelques jours, c'est Podemos qui devrait réaliser un score historique. En Italie, c'est le mouvement 5 étoiles qui vient de remporter Rome et Turin au nez et à la barbe du si télégénique Matteo Renzi. En Autriche, c'est l'extrême droite qui a bien failli renverser la table à la présidentielle du mois dernier. Partout la même colère, partout la même révolte, partout la même impavidité des partis traditionnels qui en France, eh bien, s'apprêtent à rejouer en 2017 le match de 2012 alors qu'il faudrait un aggiornamento.
Quelles conséquences pour la Grande-Bretagne ?
Eh bien, à court terme, on le voit, hein, la chute dramatique d'ailleurs de la livre sterling, mais justement, cette chute de la livre pénalise d'abord ceux que les électeurs britanniques ont voulu punir. Les happy few, ceux qui ont les moyens de voyager, qui vivent à l'étranger ou qui donc changent leur livre sterling contre des euros. Les ouvriers, les salariés britanniques, eux, qui passent leurs maigres vacances au pays, à Brighton, sur la mer du Nord, eh bien, qui sont payés en livre sterling, qui n'ont pas de résidence secondaire en Espagne ou en Dordogne, ceux-là ne souffriront pas, ou en tout cas, pas tout de suite.
Yeah, I bet. shave a bit of power. You got 50,000 watts in a big acoustic tower. Security's so tight tonight. Oh, they're ready for a tussle. Better keep your backstage passes, 'cause your promoter had the muscle. And so it goes, and so it goes, and so it goes, and so it goes. The way it's going, no one knows. And so it goes, and so it goes, and so it goes, and so it goes. The way it's going, no one knows. In the tall building sit the head of all nations, worthy men from Spain and Siam. All day discussions with the Russians, but they still went ahead and beat all the plan. Now up jumped the U.S. representative. He's the one with the tight eyes. 747 for him in that condition, flying back from a peacekeeping mission. And so it goes, and so it goes, and so it goes, and so it goes. The way it's going, no one knows. And so it goes, and so it goes, and so it goes, and so it goes. The way it's going, no one knows. And so it goes, and so it goes, and so it goes. But where it's going, no one knows. And so it goes, and so it goes, and so it goes, and so it goes. But where it's going, no one knows. But where it's going, no one knows.
Et ce qui part surtout, et ça c'est juste le côté anglais de ça, c'est que premièrement, il semble que les dirigeants du livre, ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de plan, etc. Mm. Ils ne savent pas, en fin de compte, quoi faire. Et on trouve que les marchés, par exemple, dont vous avez parlé, certaines grandes sociétés, les grandes banques, eux, ils avaient des plans, et c'est assez négatif pour l'Angleterre. Et tout ça, c'est un peu improvisé, on a l'impression. C'est peut-être qu'on ne comprend pas, mais un des premiers résultats, par exemple, ça venait d'une ville dans le nord-est de l'Angleterre, Sunderland, qui ont voté largement pour Leave. Et qu'est-ce que fait marcher Sunderland? C'est l'équipe de l'usine japonaise de voitures là. Et les Japonais ont toujours dit que si l'Angleterre ne fait pas partie de l'Union européenne, ils vont mettre leurs usines ailleurs. Donc c'est une espèce de rejet, je crois. Et il ne faut pas juste parler de ça, d'après moi, dans des termes européens. Ça fait partie d'une plus large rejet des élites, etc.
Overrun by Chinese.
Le contexte, écoute, c'est très très clair. À 4h40 ce matin, l'Écosse a déclaré que les Écossais ont voté à plus de 60% pour rester dans l'Union européenne. Malheureusement, dans le même moment, le Royaume-Uni a voté à 52% pour quitter l'Union européenne. Donc nous avons un gros problème.
Ce qu'on avait prévu, parce que pour le reste, rien de ce qui se déroule ces temps-ci n'est prévisible. Même la présidentielle autrichienne n'était pas prévue, son issue n'était pas prévue, puisque les derniers sondages donnaient l'extrême droite en tête. C'est ça qui est nouveau, rien ne se passe comme prévu, c'est le titre que le romancier Laurent Binet avait utilisé pour raconter la campagne présidentielle précédente, la campagne présidentielle française, et ce titre, il conviendrait bien plus pour la campagne actuelle, parce qu'à l'exception du début, la disqualification de DSK, tout lors de la précédente présidentielle s'est passé comme prévu. Et cette fois-ci, c'est le monde entier qui semble obéir à des processus aléatoires depuis le Brexit. Tout devient impossible, rien n'est devenu prévisible. Et cette imprévisibilité du corps social, figurez-vous qu'un sociologue l'avait prévu, Georg Simmel. Alors Georg Simmel, je vous rafraîchis la mémoire, c'est un sociologue allemand mort en 1918, un sociologue atypique, vivant et écrivant en marge de l'université, écrivant sur des phénomènes n'intéressant pas le monde académique, comme la mode, le secret, le paysage. Et Simmel donne comme caractéristique à la modernité l'allongement des chaînes téléologiques. La téléologie, rien à voir avec la théologie, c'est la science des finalités. L'allongement des chaînes téléologiques, c'est l'idée selon laquelle, dans une société moderne, la finalité des choses est de plus en plus difficile à prévoir. Parce que les sociétés sont de plus en plus ramifiées, les hommes exercent des tâches de plus en plus fragmentées. Par conséquent, il n'est plus possible, nous dit Simmel, d'embrasser la totalité du corps social d'un seul regard. La modernité, pour lui, c'est la complexité. C'est peut-être pour cela qu'il n'est plus possible de conjuguer le verbe prévoir au futur, que la prévision a un passé mais semble ne plus avoir d'avenir.
Pour n'être pas les...